Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Au cours des deux dernières semaines, je vous ai parlé de cette croyance populaire selon laquelle le message divin destiné à l'humanité révèle que celui qui refuse de donner son cœur au Seigneur sera châtié par les flammes de l'enfer qui le feront souffrir éternellement. On prétend que cet enfer est un endroit où Dieu se vengerait des pécheurs. Chaque individu devrait choisir au cours de son existence entre le paradis et l'enfer. Par la crainte qu'elle engendre, la doctrine de l'enfer est destinée à inciter les hommes à accepter le Christ. Dieu n'agit pas de cette façon. Dès le début, il a laissé à l'homme son libre arbitre. Dans sa parole, Dieu nous révèle par l'intermédiaire de l'apôtre Paul les conséquences éventuelles de notre choix. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le résultat est sans équivoque. Nous aurons soit la mort éternelle, une mort définitive, comme le confirment d'autres passages bibliques, ou alors nous aurons la vie éternelle. Nous avons déjà vu dans les Saintes Écritures ce qu'est réellement cet enfer dont on parle, sans le connaître réellement, faute d'avoir fait une étude approfondie du sujet. Un autre passage biblique, pourtant si souvent cité, prouve que l'homme rebelle n'est pas destiné à souffrir éternellement dans les flammes de l'enfer. Jésus a déclaré « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cette déclaration est pourtant limpide. Celui qui croit en Christ aura la vie éternelle, alors que celui qui ne croit pas mourra à tout jamais, c'est aussi simple que cela. Nous avons déjà eu l'occasion d'examiner les différentes définitions du mot « enfer ». Et nous avons examiné également la parabole du mauvais riche et Lazare. Aujourd'hui, je souhaite poursuivre l'étude de ce vaste sujet en examinant quelques passages trop souvent sortis de leur contexte. Et ils sont sortis de leur contexte pour tenter d'apporter de prétendues preuves de l'existence d'un enfer où brûleraient les damnés. Peut-il exister des contradictions entre certains passages bibliques, ce qui anéantirait leur crédibilité? Absolument pas. C'est ce que le Christ confirme en disant « L'Écriture ne peut être anéantie ». Pour beaucoup de personnes, Apocalypse, le chapitre 20, le verset 10, est une source de confusion et d'incompréhension, car sa traduction est maladroite. Jean écrit « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Comme nous allons le voir, ceux qui seront tourmentés au siècle des siècles sont le diable et ses démons, et non les hommes. Dans sa traduction des textes saints, M. Louis II a rajouté le verbe « sont », ce qui n'existe pas dans le grec original. Cet ajout, retrouvé également dans d'autres traductions, égare le lecteur, le laissant supposer que la bête et le faux prophète se trouvent encore dans l'étang de feu au moment où le diable et ses démons y sont jetés. La chronologie de l'Apocalypse nous révèle que c'est au début du règne divin sur cette terre que ces deux personnages y seront précipités. Lorsque le Christ reviendra ici-bas en tant que roi, il détruira non pas tous les méchants, mais la bête et le faux prophète qui seront alors jetés vivants dans un étang ardent de soufre et de feu. L'étang de feu existait déjà à l'époque des disciples. Il se situait dans la vallée de Hinnom. C'est là que l'on jetait les immondices et les criminels. Le prophète Ésaïe a confirmé que ce feu brûlerait à nouveau pendant toute la durée du millénaire. Au cours du règne du Christ et de ses saints, la vallée consumera à nouveau ceux qui se montreront incorrigibles et qui continueront à se rebeller contre les lois divines. Ces gens seront précipités dans cet étang de feu pour servir de témoignage. La Bible confirme que les méchants s'évanouiront en fumée et qu'ils deviendront comme de la cendre. Voici donc le sort qui attend la bête et le faux prophète. Ils seront brûlés, s'évanouiront en fumée et deviendront comme de la cendre. C'est la raison pour laquelle Apocalypse, le chapitre 20 et le verset 10, seraient beaucoup mieux traduits par « Où furent la bête et le faux prophète ?» En parlant des gens qui auront refusé de se repentir, Jésus a déclaré « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Dans ce passage, le mot « éternel » est traduit du grec « aionion », venant de la racine « aion », qui signifie « âge ». Ce feu éternel aurait dû être traduit par « le feu qui dure pendant des âges ». Ce feu durera pendant toute une époque. Au sujet de ces non-repentants et réductibles, Jésus poursuit « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Ces événements auront lieu après les deux premières résurrections. Ces gens recevront le salaire, l'amende qu'ils auront encourue. Paul nous a confirmé que ce salaire, cette amende, est la mort éternelle. Ils vont donc périr, être anéantis à jamais, alors que les justes, eux, recevront la vie éternelle. Ce feu consumera les non-repentis. Voilà le message de la parabole du mauvais riche et Lazare. Ces rebelles, ces méchants seront châtiés par la seconde mort. Cette punition sera définitive, mais ne sera pas une torture éternelle. Nous pouvons vous documenter à ce sujet si vous le souhaitez. Satan est un être spirituel. Nous savons que les êtres spirituels ne peuvent pas être affectés par le feu, car ils ne sont pas composés de matière. Bien entendu, tout est possible au Dieu Tout-Puissant, y compris de créer un feu pouvant consumer les esprits. Mais il n'est pas question ici de ce que Dieu peut faire, mais bien de ce qu'il veut faire. Les démons connaissent la puissance de Dieu, et ils reconnaissent son autorité, bien qu'ils aient choisi de ne pas s'y soumettre. Ils savent ce qui les attend. Voilà pourquoi ils tremblent et sont dans les tourments. L'apôtre Jacques a écrit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Dieu a déjà éloigné Satan et ses démons de lui. Satan a encore accès au trône divin, comme le confirme les premiers chapitres du livre de Job, mais d'une manière totalement différente de celle qui existait avant. La Bible nous révèle que lorsque la nouvelle Jérusalem descendra du ciel, Satan n'y aura pas accès. Satan et ses démons ne seront pas détruits pour autant, car ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Dans ce passage biblique, le pronom « il » se rapporte bien à Satan, mais aussi à ses démons. En effet, les trois premiers versets de ce chapitre montrent que Satan sera jeté dans l'abîme et liés jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. À la fin de cette période, il sera libéré et tentera à nouveau de séduire les nations. Bien entendu, il entreprendra cette séduction avec l'aide de ses démons. Comme le Christ nous informe que le feu éternel a été préparé pour le diable et pour ses anges, des anges devenus des démons par suite de leur rébellion, c'est bien eux qui seront tourmentés au siècle des siècles, autrement dit, pour des temps qui dureront à jamais. Les anges ne peuvent mourir. Jésus le confirme dans Luc, le chapitre 20, les versets 34 à 36. Pourquoi ? Parce qu'ils sont des êtres spirituels, tout comme les démons. Paul écrit : Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. Dans ce passage, le mot « anéanti » vient du grec « carthageo », signifiant « rendre sans puissance »,« restreindre »,« rendre sans effet ». Satan, qui a la puissance de la mort, sera donc rendu inoffensif, sans puissance. Quel sera donc son destin ? Avant l'établissement des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, tout ce qui sera encore physique, donc combustible, sera consumé, disparaîtra dans une sorte de lac de feu qui deviendra mondial et qui n'aura aucun pouvoir sur ceux qui seront devenus des êtres spirituels composés d'esprit. La chaleur sera si intense que la surface de la terre se dissoudra, et Satan verra alors la disparition de toutes les œuvres des hommes. Il verra ainsi se consumer le résultat de ses efforts, de ses complots, et ce sera déjà pour lui un tourment. C'est ce que l'apôtre Pierre nous confirme dans sa seconde épître au chapitre 3. Il s'agit du grand feu de la géhenne, qui détruira aussi tous les méchants. Mais puisque Satan et ses démons sont des esprits, des êtres spirituels, le feu ne pourra pas les consumer. Dans la Nouvelle Jérusalem, cette cité qui viendra des cieux, où elle est en préparation, il n'y aura aucune place pour Satan et ses démons. S'ils ne seront pas là, où seront-ils ? L'apôtre Jude nous donne quelques indices sur ce qui les attend. Il écrit : Puisqu'elle a gardé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, ce seront des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité, autrement dit, au siècle des siècles. L'ennemi ultime du chrétien est la mort. Lorsque le plan divin sera finalement achevé, la mort disparaîtra. L'enfer, tel qu'on le décrit couramment, est contraire aux décrets divins. Ces décrets ont été institués par un Dieu d'amour pour le bien de l'homme et non par un Dieu qui veut tourmenter par les souffrances l'homme qu'il a créé. D'un bout à l'autre, la Bible insiste sur le fait que l'obéissance mène à la vie éternelle, tandis que la désobéissance conduit à la mort éternelle. Quel dommage que tant de personnes gâchent leurs derniers jours avec la crainte d'un enfer fictif qui ne correspond pas à la réalité biblique.